France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
La complexité et ses nuances, c'est notre série de cette semaine. Aujourd'hui, nous parlons des sciences du vivant et notamment des sciences de l'organisme et du psychisme humain. Comment faisons-nous avec l'extraordinaire complexité de nos fonctions et de nos affects ? Et nous allons tout particulièrement explorer l'œuvre du professeur honoraire au Collège de France, Alain Berthoz, qui nous fait le plaisir de sa présence ici et qui a inventé la notion de simplexité en science en tout cas, car la notion existait déjà en architecture. Alain Berthoz nous expliquera les choses mieux que je ne saurais le faire dans cette brève introduction. Il me semble qu'on peut juste dire, pour amorcer l'analyse, que la simplexité, c'est une capacité pour des organismes très perfectionnés à traiter les informations de l'expérience de manière à produire un choix, une décision, un comportement déterminé. La complexité parvient de facto, tous les jours, à produire de notre part des actes simples et des processus parfois inattendus mais nets pour sortir de situations emmêlées, qui certes auraient pu générer un autre comportement que celui adopté. Tout cela interroge le fonctionnement du vivant et en particulier son extraordinaire faculté d'adaptation et de décision, même si tout n'est pas conscient, loin s'en faut. Et c'est pourquoi nous entendrons aussi une psychanalyste, Isabelle Alfandari, qui a travaillé de près les conditions de naissance de la psychanalyse. Dans notre vie psychique, inconsciente, eh bien, dans cette vie, elle aussi semble se déterminer des options à partir de la complexité. Le symptôme lui-même, aussi douloureux soit-il, n'est-il pas pensé par Freud de cette manière, c'est-à-dire comme une simplexité, même s'il faudrait pouvoir remplacer ce symptôme par une autre simplexité moins pathologique. Bienvenue donc à vous deux. Bonjour Isabelle Alfandari.
Bonjour.
Outre vos activités de psychanalyse, vous êtes professeure de littérature comparée à l'université Sorbonne Nouvelle. Vos recherches en général ainsi que votre formation vous placent aussi dans le champ de la philosophie. Je renvoie à deux de vos livres qui traitent des origines de la psychanalyse, Science et fiction chez Freud, Quelle épistémologie pour la psychanalyse, paru aux éditions Ithac, et Le scandale de la séduction d'Édipe à MeToo aux presses universitaires de France. Et bonjour Alain Berthoz.
Bonjour.
Je prononce bien le Z à la fin?
Oui, tout à fait.
Entendu. Le Collège de France a été votre lieu d'enseignement, mais vous êtes aussi membre de l'Académie des sciences et de l'Académie des technologies. De formation, vous êtes à la fois ingénieur et neurophysiologiste. Eh bien, vous nous expliquerez d'ailleurs le sens précis de ce mot. Votre invention du concept très riche de simplexité, je le répète, après un usage existant en architecture, cela se décline particulièrement dans une trilogie que vous avez fait paraître chez Odile Jacob entre 2009 et 2020, La simplexité, La vicariance et L'inhibition créatrice. Alors pour commencer notre conversation, voici un texte du philosophe français Maurice Merleau-Ponty. C'est un extrait de son premier livre intitulé La structure du comportement, dont la première édition date de 1942.
Tout comportement qui n'est pas privilégié sera apprécié par le sujet comme un comportement difficile ou imparfait. Or, qu'est-ce qui confère aux comportements privilégiés leur privilège ? D'où vient qu'ils sont traités comme les plus simples et les plus naturels, qu'ils donnent un sentiment d'équilibre et de facilité ? Ce n'est pas parce que le comportement est plus simple qu'il est privilégié. C'est au contraire parce qu'il est privilégié que nous le trouvons plus simple. Et si l'on voulait dire avec Köhler que le comportement privilégié est celui qui dépense le moins d'énergie, outre que son caractère économique n'est pas établi objectivement, il est trop clair que l'organisme n'est pas une machine réglée selon un principe d'économie absolue. La plupart du temps, le comportement privilégié est plus simple et plus économique eu égard à la tâche dans laquelle l'organisme se trouve engagé. Et ses formes d'activité fondamentales, l'allure de son action possible, sont supposées dans la définition des structures qui seront les plus simples pour lui, privilégiées en lui.
Maurice Merleau-Ponty est lu ici par notre réalisateur Nicolas Berger. Alain Berthoz, pourquoi et comment privilégions-nous, à chaque instant, à vrai dire, un comportement.
Merci de m'avoir invité et merci de cette question. Nous privilégions un comportement, peut-être non pas, comme dit Merleau-Ponty, parce qu'il est simple. J'ai une très grande admiration pour l'œuvre de Merleau-Ponty et la façon dont il a remis le corps en acte dans la réflexion pour supprimer le fossé qui est celui de certaines théories entre l'esprit et le corps, etc. Mais je vais discuter un petit peu son usage du mot simple. En effet, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, au cours de l'évolution, les organismes vivants tous, y compris d'ailleurs les plantes, ont, on ne peut pas dire découvert, mais mis au point des façons ou des comportements qui ne sont pas simples. Les organismes vivants ont trouvé des principes, appelons ça des principes, qui permettent, face à la complexité à la fois du monde et de l'organisme lui-même, nous en sommes un exemple par la complexité de notre cerveau et de notre corps, ces principes permettent de faire face aux défis du monde qui demandent d'aller vite, d'être efficace, d'avoir un sens aussi. Et ces principes, je les ai énumérés dans cet ouvrage, cet essai. Ces principes, je les appelle simplex, effectivement. Alors pourquoi ils ne sont pas simples? Ils sont simplex parce que il y a, par exemple, je vais en citer quelques-uns rapidement, puis on pourra en discuter si vous le souhaitez.
Avec plaisir.
Un premier, c'est par exemple la modularité. Vous savez que dans notre cerveau, il y a une division du travail. Il y a des aires qui s'occupent de la vision, d'autres de la sélection de l'action, etc. La spécialisation permet de réduire le nombre de degrés de liberté, comme disent les scientifiques, c'est-à-dire de spécialiser, un peu comme dans la société, on a des bouchers, des notaires, etc. C'est une complexité apparente, mais qui permet d'aller vite et de résoudre les problèmes. C'est tout l'avantage de la modularité. Un autre de ces principes, c'est l'anticipation. Tout le fonctionnement du cerveau est toujours anticipateur, et cette anticipation est très souvent probabiliste. Avec Carlo Ossola, qui avait une grande chaire au Collège de France, nous avons fait, non pas un livre, mais une petite réunion d'experts autour de la notion des libertés, de l'improbable. Le cerveau n'est pas seulement d'ailleurs une machine, comme l'ont montré les neurosciences modernes, qui travaille avec la probabilité, mais en même temps, il tient compte de ce qui n'est pas calculable. Autre principe, le détour. Le fait qu'on peut quelquefois, pour résoudre un problème, non pas justement utiliser la solution la plus simple, apparemment la plus simple, par exemple, fixer l'âge de la retraite. Mais on peut éventuellement.
Bon exemple. Allez-y.
Mais
on
par
vous
exemple,
écoute, hein. Vraiment, on vous écoute.
Mais
là.
Par exemple, faire face à la complexité et essayer de tenir compte d'un principe qui est aussi simplex, que j'ai appelé la vicariance, c'est-à-dire la diversité. Car en face de ces principes généraux, il y a aussi un principe de diversité dont on parlera si vous le souhaitez. Et puis il y a effectivement tout le problème de l'émotion, c'est-à-dire cette invention extraordinaire de l'évolution, qui est apparemment complexe, puisqu'elle fait appel à des mécanismes neurochimiques, etc. Mais pour moi, l'émotion, c'est aussi une invention de l'évolution pour prédire. L'émotion, c'est pas pour réagir. C'est un des outils qui aide à préparer le corps à agir dans une situation. Donc voilà, en bref, quelques-uns des exemples de ces principes, y compris le fait qu'une bonne partie de notre cerveau fonctionne avec ce que nous appelons, et bien sûr c'est un terme aussi utilisé par les roboticiens, des modèles internes. C'est-à-dire nous simulons le monde. Le cerveau est un simulateur. Et on en reparlera, si vous voulez, à propos de la conscience.
Alors, je voudrais qu'on prenne un exemple, si vous le voulez bien, que vous donnez dans votre livre « La simplexité ». L'enfant a une capacité oculaire extraordinaire de convergence et de divergence. Si on lui fait faire des exercices que les orthoptistes font faire souvent à des adultes qui ont des problèmes de convergence à un moment donné à cause des écrans, eh bien, ils savent converger, ils savent faire avec leurs yeux des choses, ça nous paraît même dangereux. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire bouger, c'est vous qui le rappelez, leurs yeux avec une amplitude impressionnante. Souvent, l'adulte n'en est plus capable et il développe même peu à peu des difficultés de bonne convergence et de bonne divergence. À ce moment-là, dites-vous, le cerveau, qui accommode, évidemment, compense un peu ce que l'œil ne peut plus faire, anticipe, comme vous venez de le dire, sur ce qu'on voit. Enfin, le cerveau compense jusqu'à un certain point. Est-ce que ça veut dire que l'information, même quand elle est un peu défaillante, produit une décision qui est, comme dit Merleau-Ponty, la plus simple pour nous, et que c'est ça c'est vital, il faut bien prendre une décision d'une certaine manière, même si les yeux ne nous donnent pas toujours ce qu'il faut voir. Est-ce que le cerveau prend des décisions de traitement de l'information de cette nature ?
Merci de la question. Je crois précisément qu'il faut remettre en cause, et c'est tout ce que font les neurosciences cognitives modernes, l'idée que le cerveau prend des informations, les traite et répond à ces informations. C'est le contraire. Un grand neurophysiologiste, Giorgi Buzaki, vient de faire un livre en anglais, Le cerveau inside out, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. Notre cerveau est une machine biologique, pardonnez-moi madame, chers collègues.
Isabelle Affalard qui va réagir juste après cette échange.
Nous reviendrons là-dessus si vous voulez tout à l'heure. Est une machine biologique qui, en interne, simule complètement le monde et va chercher dans le monde ses informations. C'est le concept d'Umwelt, de Von Hueckel. C'est-à-dire que nous avons dans le cerveau des circuits qui fonctionnent en permanence. Notre cerveau, c'est des boucles internes qui fonctionnent. Exemple, le rêve. Moi, je fais des cauchemars toutes les nuits, toute ma vie, pour un certain nombre de raisons. Mais tout ça est réel. Je vais être un petit peu provocant en disant que le cerveau n'a pas besoin du monde. Il a acquis au cours de l'enfance tout ce qu'il faut pour anticiper. Et donc, le fonctionnement cérébral n'est pas une fonction stimulus-réponse. C'est toujours une anticipation en fonction du but, du sens. Et on vérifie. C'est vrai d'ailleurs dans le sport. Les grands champions de sport ne traitent pas l'information en permanence. Ils simulent. Les grands champions simulent complètement, pour descendre à ski, ils simulent complètement le tracé et ils n'utilisent les sens que pour vérifier des prédictions. Le cerveau est un parieur, un prédicteur, et il a ces mécanismes qui sont extraordinaires pendant le rêve, qui sont mis au jeu aussi dans des cas comme celui que vous venez de citer, des mouvements des yeux et du développement. Donc le développement de l'enfant, je ne suis pas un grand spécialiste, mais c'est précisément la substitution, mais progressivement la capacité d'aller échapper à cet ensemble stimulus-réponse pour en permanence interroger le monde, poser des questions, faire des prédictions et vérifier ce qu'il y a.
Sigmund Freud était un neurologue d'abord. Il a inventé la psychanalyse, qui peut-être est un autre chemin, mais qui peut-être aussi a encore des échos à des tas de choses que vous dites et qui intéressent la neurologie. Isabelle Alfondari, comment vous réagissez à ce que vient de dire Alain Berthoz ? Est-ce que vous, qui non seulement est psychanalyste, mais avez travaillé sur la naissance de la psychanalyse, vous retrouvez dans ce qu'il dit des choses importantes concernant la science, car c'était le projet de Freud d'en faire une science, la science psychanalytique? Ou au contraire, avez-vous l'impression que c'est un autre chemin qui s'est ouvert avec la psychanalyse?
Alors, à la fois, il y a des échos et c'est un autre chemin. Freud est neurologue de formation. Il commence son travail, disons, scientifique par l'étude du cerveau. Et puis, il, à un moment, il renonce à explorer le cerveau et il s'intéresse à ce qu'il appelle la dimension de l'inconscient. Parce que ce qu'Alain Berthoz a dit là, pour l'essentiel, consiste à décrire des processus conscients. n'est-ce pas ? Ou en tout cas pour la plupart, puisque vous avez parlé du rêve, et le rêve n'est pas un processus psychique, est un processus psychique d'une autre nature que celui de la conscience. Et ce à quoi Freud va s'intéresser, ça n'est pas seulement le psychisme conscient, mais également une autre dimension qu'il découvre et qui s'appelle l'inconscient. Mais il y a de nombreux échos tout à fait, comment dire, convergents en psychanalyse avec ce qui a été dit à l'instant, et notamment le fait que, pour Freud, la question du stimulus-réponse, enfin, le modèle du stimulus-réponse n'est pas du tout suffisant et n'est pas du tout adapté pour décrire le psychisme humain. Donc ça, c'est aussi tout à fait convergent avec ce que vous avez dit. Et puis, l'idée que, d'une certaine manière, vous avez dit le cerveau n'a pas besoin du monde, on pourrait dire en psychanalyse, le psychisme a, d'une certaine manière aussi, assez peu besoin du monde. C'est d'ailleurs peut-être, dans certains cas, son problème. D'être pris dans la dimension, ce que Freud a appelé la réalité, la réalité psychique, qui prend le dessus sur la réalité matérielle. Et donc, le fait que le psychisme n'est pas tant besoin que cela du monde, du reste du monde, qui, si j'ose dire, ne calcule pas tant le reste du monde, ne le prenne pas en considération. C'est aussi quelque chose que Freud découvre, notamment chez ceux qu'il appelle les nerveux, des gens qui présentent des troubles qu'on peut appeler névrotiques.
Dans ce que vous venez de dire, Isabelle Alfandari, donc c'est surtout le deuxième point que je comprends le mieux, parce que, mine de rien, le cerveau, c'est aussi inconsciemment qu'il compense, par exemple, nos déficits oculaires, nos difficultés à converger. Ça n'est peut-être pas tout à fait conscient, même si l'inconscient freudien est spécifique. Et merci de l'avoir rappelé. En revanche, je trouve que sur le deuxième point que vous dites est fondamental pour notre émission aujourd'hui. C'est que le modèle stimulus-réponse ne fonctionne pas toujours dans le psychisme humain, comme on pourrait imaginer, si on est juste un médecin neurologue, ça ne fonctionne pas de la même manière qu'en neurologie, par exemple. Est-ce que vous pourriez préciser cela ? Est-ce qu'il y a quand même des choses qui fonctionnent de cette façon dans le psychisme humain ? À quel moment on voit que, si j'ose dire, ça diverge ?
Il y a des réponses du psychisme aux événements internes et aux événements qui touchent le sujet et qui intéressent son inscription dans la réalité. Donc, il y a bien une dimension de la réponse. Et il y a un certain nombre de réponses sous la forme de ce que Freud, par exemple, va appeler des mécanismes de défense. Donc, il y a bien une réactivité, mais qui n'est pas de l'ordre de cette espèce de simplification qui s'appelle le stimulus-réponse. Voilà. Le psychisme, il est inconscient, on pourrait dire, il est infiniment plus complexe à décrire et à prendre en considération que simplement, comment dire, un principe unique qui serait celui du stimulus-réponse. Cet arc réflexe, Freud le dit, Lacan va le dire aussi, il n'est pas du tout de nature à rendre compte de la complexité, de la subtilité des réponses du psychisme.
On est d'accord.
Allez-y Alain Berthaud, sur ce problème stimulus-réponse.
Alors, merci, madame, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit dans votre première phrase. Je n'ai pas parlé que du cerveau conscient, au contraire. J'ai dit que l'essentiel du fonctionnement cérébral n'est pas dans le rapport direct avec le monde. Je vais prendre une minute de neurophysiologie. Toutes les informations sensorielles qui nous viennent du monde passent par une structure qui s'appelle le thalamus. C'est la porte d'entrée. Exactement comme à la maison de la radio, on est obligé d'entrer par une entrée. Eh bien, ce que révèlent nos collègues en neurophysiologie, c'est qu'il y a très très peu des informations envoyées par le thalamus au cortex ou aux structures qui sont en partie inconscientes d'ailleurs dans le cerveau, qui viennent du monde extérieur. Car cette porte d'entrée, le thalamus, est elle-même sous influence de tout le reste du cerveau et fait partie de ce que j'ai appelé des boucles, c'est-à-dire qu'en permanence, le cerveau fonctionne effectivement de façon qu'on pourrait appeler inconsciente. Et il y a des... je crois que Lionel Nakache a fait des bouquins très intéressants là-dessus, d'ailleurs, récemment. Et donc, bien sûr, l'essentiel du fonctionnement cérébral, c'est un fonctionnement qui n'est pas conscient. De temps en temps, émerge un peu la conscience.
C'est pour ça que je me suis permis tout à l'heure de préciser qu'effectivement, le premier point d'Isabelle Alfandari, on pouvait lui répondre que pour vous aussi, la plupart des processus ne sont pas conscients. Mais pas être conscient, ça ne veut pas forcément dire qu'on a affaire à l'inconscient freudien.
C'est ça que j'ai entendu. Oui, bien sûr. Tout à fait.
Voilà, je crois qu'on est d'accord. Voilà,
C'est là qu'est la différence. Et c'est intéressant. Moi, j'ai été invité récemment par des psychanalystes qui ont créé un mouvement qui s'appelle Neurosciences et Psychanalyse. analyses, vous les connaissez sans doute, et nous avons discuté sur cette chose-là. C'est très intéressant de voir quelles sont les différences du sens qui est attribué à chacun de ces mots.
Mais revenons sur le problème stimulus-réponse. Il me semble, en ayant essayé d'entrer dans votre œuvre, que Alain Berthoz, le problème, c'est qu'il y a une multiplicité de réponses possibles, que la complexité est partout, le traitement de l'information est extraordinairement difficile, pour les organismes très développés, encore plus. Et pourtant, une réponse advient. Ma question est, pourquoi celle-ci? C'est pourquoi vous dites d'ailleurs c'est une simplexité, c'est-à-dire quelque chose de relativement simple à partir du complexe advient. Pourquoi et comment? C'était ma première question d'ailleurs. Pourquoi et comment et pourquoi pas une autre?
Alors,
réponse.
Parce que ce qu'on peut, il faut être très très humble actuellement sur ce qu'on comprend du fonctionnement du cerveau et de ses rapports avec le monde. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est que tous les systèmes excitateurs dans le cerveau sont doublés de l'inhibition. Et l'inhibition, et c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin qui s'appelle l'inhibition créatrice.
Oui.
Vous savez que le prix Nobel a été donné avant-hier à mon collègue économiste qui est un schumpeterien et qui a fait ça sur la destruction créatrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en permanence, pour le cerveau, le fonctionnement est toujours un équilibre entre inhibition et excitation. C'est-à-dire que tout le fonctionnement cérébral, depuis l'enfance, il y a de très jolis travaux qui ont été faits au Collège de France par Alain Prochian sur cet équilibre inhibition-excitation dans le développement du cerveau. Donc en permanence, les circuits peuvent être bloqués, facilités. Notre cerveau est dans une situation de décision permanente par ce jeu, cet équilibre entre inhibition et excitation. Et c'est pour ça que j'ai essayé de remettre au jour la notion de vicariance. De quoi s'agissait-il? Il y avait en France une école, Reclin, il y a une quarantaine d'années, 50 ans, qui s'appelait l'école de psychologie différentielle. Le fait que nous sommes tous différents, le fait que nous pouvons faire tous, chacun d'entre nous résout un problème, qu'il soit mental ou physique, par des méthodes différentes. Et que chacun d'entre nous, en fonction de son développement, de ses connaissances, peut choisir. Et la vicariance, elle est basée essentiellement sur le fait que nous pouvons inhiber, justement, les mécanismes automatiques, des mécanismes pour les remplacer par d'autres qui sont plus adaptés à la situation précédente. Autrement dit, et c'est d'ailleurs un concept que développe aussi Olivier Houdet, psychologue à Paris. Et autrement dit, la réponse à votre question, c'est qu'en permanence, notre cerveau a la capacité de remplacer un système par un autre. Et c'est le fondement, pas seulement de notre prise de décision permanente, mais aussi de la compensation des déficits. C'est pour ça qu'on peut éventuellement remplacer un système. J'ai organisé à l'Académie des sciences, au mois d'octobre l'année dernière, un colloque autour des Jeux para-olympiques. Et c'est extraordinaire de voir à quel point ces personnes qui ont des déficits si importants sont capables de réinventer complètement d'autres façons de faire leur, non pas seulement leurs gestes, mais l'ensemble des actions nécessaires pour faire des choses aussi compliquées que jouer au tennis dans un fauteuil. Voilà.
Vicarius, donc, en latin, ça veut dire ce qui remplace, ce qui est un substitut. Donc oui, vous expliquez très minutieusement comment, si on pense en termes de fonction, ce qui est une manière de réfléchir très féconde, et vous le montrez, on peut remplacer une fonction par une autre qui, en quelque sorte, va s'adapter. Est-ce que je me trompe?
Pas une fonction par une autre, mais on peut...
Un organe qui...
On peut remplir une fonction...
Par un autre organe, ou par un autre processus.
Par un autre processus.
Entendu.
On peut remplacer. Je peux me rappeler le trajet que j'ai fait de chez moi jusqu'à la maison de la radio, soit en me rappelant tous les gestes, ou si j'étais venu à pied que j'aurais fait tourner à gauche, etc. C'est ce que fait le cerveau gauche, l'hippocampe gauche en particulier. C'est-à-dire, c'est ce que d'ailleurs les femmes aiment bien faire. C'est un sujet intéressant, la différence entre les hommes et les femmes.
C'est avéré scientifiquement.
Ou bien je peux utiliser une carte. C'est-à-dire, j'ai la possibilité d'utiliser une multiplicité de référentiels. Et c'est très intéressant parce que dans les livres, l'œuvre de Freud, il y a aussi ces concepts de référentiels qui ont été pris peut-être dans un sens très différent.
Il y a aussi la question de l'inhibition. Donc, si j'ai bien compris, pour pouvoir faire un choix dans le traitement de l'information, le cerveau inhibe d'autres possibilités.
Agir, c'est toujours inhiber.
Entendu. Alors ça, c'est un grand mot qui existe en psychanalyse, le fait d'inhiber des choses, le fait de produire dans une situation psychique conflictuelle certaines choses qui peut d'ailleurs être pathologique, un symptôme avec tout ce que vous avez dit l'un et l'autre, c'est-à-dire le cerveau a aussi un peu son autonomie hein, par rapport au monde, voilà. Et l'idée que d'autres voies parfois thérapeutiques, qui seraient bonnes, sont pour l'instant inhibées. Ça, il me semble que... Évidemment, on est dans un monde un peu différent, mais Isabelle Alfandari, ce sont des processus psychiques qui peuvent être compris avec ces mêmes mots. Vous ne trouvez pas ?
D'une certaine manière, mais il faut dire quand même que ce ne sont pas dans les mêmes termes que la psychanalyse, et notamment la psychanalyse freudienne, embrasse la question notamment, par exemple, des décisions. Parce que le processus de décision que vous avez décrit, Freud, je pense, ne le renierait pas, bien sûr, mais dirait qu'une partie de ce qui est l'objet de la décision relève d'un déterminisme qui n'est pas simplement, on pourrait dire, biologique ou neurophysiologique, mais d'un déterminisme qui a à voir avec l'histoire de la vie du sujet. Et avec le refoulement, c'est-à-dire la répression, de traces, de souvenirs très anciens, notamment de souvenirs de la période de 0 à 4 ans, dont le sujet n'a plus aucune mémoire et qui détermine un certain nombre de ses choix. Et d'une certaine manière, pour Freud, la vie psychique et bien sûr la vie consciente, c'est le fait de faire des choix d'objets d'amour, des choix de décisions professionnelles, mais que ces choix que le sujet peut sans doute se représenter à lui-même selon une causalité qu'il peut argumenter, qu'il peut articuler, Freud dit que l'origine de ces choix, d'une certaine manière, la causalité de ces choix, le déterminisme causal de ces choix, relève d'une part inconnue, non connue, et en partie non recouvrable.
Non organique, et on peut le dire presque.
Pour Freud, dans l'article de 1915, s'il y a la possibilité un jour de trouver, une manière organique de décrire ce qu'il dit, bien sûr, il ne la renie pas et il ne l'exclut pas, mais il suspend cette question sine die parce qu'il fait une hypothèse de travail pour rendre compte d'un certain nombre d'événements psychiques, de faits psychiques, comme le lapsus, comme le rêve, dont il dit que, par ailleurs, sans son hypothèse, on a bien du mal à rendre compte.
Alors là, je vous en prie, après, il faudra quand même qu'on développe un peu tout ce qui vient d'être dit.
Oui, je peux répondre à ça, c'est très intéressant. Je peux vous dire, madame, qu'il n'y a pas de désaccord là-dessus. Je suis un enfant caché. Et donc, je peux vous dire que j'ai une expérience personnelle de l'importance de ces choses-là. Mais, où j'ai été un enfant caché. Nous savons, depuis plus de 100 ans, grâce aux travaux de Wilder Penfield, un grand neurologue canadien, qu'il y a dans les zones médiotemporales profondes du cerveau des structures qui, effectivement, mémorisent ces choses-là. Il avait montré, chez des patients où il avait pu faire des stimulations électriques qui réactivaient, en quelque sorte, hein, mais bien que ce soit une stimulation électrique, c'est une réactivation, qu'une personne qui était réactivée, enfin stimulée, disait tout d'un coup « Oh, mais je me vois tout d'un coup avec ma mère sur une banquette, etc. » Donc, nous savons aujourd'hui qu'effectivement, et on commence à comprendre les réseaux et les mécanismes par lesquels le cerveau engrange effectivement ses souvenirs, précoces ou moins précoces, parce qu'il n'y a pas que la jeune enfance, mais toute la vie finalement. Et par exemple, une des grandes découvertes faites récemment d'ailleurs, à laquelle a contribué une jeune équipe de neurophysiologie, c'est que dans la structure qui s'appelle l'hippocampe, qui est la structure qui fait des mémoires de ce qu'on appelle épisodiques, ce que nous faisons en ce moment, nous sommes en train de parler là, dans ce studio, grâce à vous, madame, Eh bien, dans mon hippocampe se constitue ce qu'on appelle la mémoire de l'épisode, une mémoire complète de l'ensemble de notre situation et de sa signification. Cette petite mémoire qui est engrangée quand même dans des structures neuronales en dialogue avec d'autres, on est d'accord ? Eh bien, tout d'un coup, dès que je me mets à me reposer ou à dormir, l'hippocampe entre dans un régime de fonctionnement très différent. Au lieu qu'on entende les neurones qui font brr, 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 on les entend faire bzzzt, bzzzt, tout d'un coup. Et ce qui se produit, c'est qu'ils envoient les mémoires constituées comme ça vers des structures à long terme. Et deuxièmement, il y a, proche de cet hippocampe, des structures qui filtrent, qui sélectionnent les informations qui seront importantes. Et nous savons maintenant que ce stockage est fait en fonction des émotions. Par exemple, dans ma génération, nous nous rappelons tous de l'endroit où nous étions lorsque nous avons appris la destruction à New York
Parce qu'il
y a convergence pour ce stockage à long terme entre les informations, je dirais, cognitives et un marquage par le système des émotions. Donc, il n'y a pas de désaccord de fond. Et c'est pour ça qu'un certain dialogue, j'ai bien dit un certain dialogue, entre psychanalyse et neurosciences est possible.
Ça dit aussi la puissance des intuitions freudiennes. À une époque où on disposait pas d'instruments, d'imagerie ou du matériel, disons, d'expérimentation.
Mais je voudrais rappeler que, puisque nous avons la chance de discuter, grâce à vous, ce que Pierre Janet avait écrit ça aussi, en même temps ou même avant Freud, en parallèle. Il n'y a pas que Freud. Et j'en profite pour dire que peut-être on n'a pas encore assez bien réhabilité le travail de Pierre Janet en France.
Alors, revenons quand même à Freud. La complexité de l'inconscient, d'abord, il y en a une qui est quasi technique, c'est qu'on n'a pas accès à tout. Donc, il s'y passe plein de choses qu'on ne peut pas vraiment connaître, sauf dans certaines qui se produisent dans des conditions, par exemple, favorisées par un travail psychanalytique. Et puis, dans la vie quotidienne et l'absurde, tout ce que vous avez dit, Isabelle Alfandari. Je voudrais que vous nous parliez de la construction, c'en est une, par l'inconscient, et peut-être pas seulement par lui, du rêve, qui est un immense problème fondateur de la psychanalyse pour Freud, en 1900, l'interprétation des rêves. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça s'élabore? Peut-on tout comprendre? Etc. Je voudrais vous entendre sur ce sujet.
Alors, le rêve est effectivement l'entrée, puisque vous parliez de l'entrée de la maison de la radio tout à l'heure, par laquelle Freud a découvert l'hypothèse de l'inconscient. Donc le rêve, ça n'est pas juste une chose parmi d'autres dans la psychanalyse freudienne, c'est véritablement Freud formule son hypothèse. Alors, il y a eu beaucoup de théories successives depuis la nuit des temps de l'interprétation du rêve, mais Freud fait l'hypothèse que le rêve reprend des matériaux très anciens qu'il vient à nouveau traiter selon des modalités qu'il est capable de décrire.
Ancien dans l'histoire du sujet.
Très ancien dans l'histoire du sujet. Et d'ailleurs, pour faire écho à ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que le thalamus, je crois, enregistre un certain nombre de données qu'il ne traite pas, Freud, en fait, conçoit le modèle du rêve selon ce modèle, puisqu'il y a chez Freud l'idée que le rêve est amorcé, donc le contenu très ancien, relevant de la mémoire la plus refoulée, est amorcé par ce que Freud appelle un reste diurne. C'est-à-dire une toute petite notation perceptuelle qui peut-être aura échappé au sujet consciemment. Je vous donne un exemple. Je suis montée comme vous par l'ascenseur. J'ai sans doute enregistré un certain nombre de petites perceptions auxquelles je n'ai pas fait particulièrement attention dans le rêve que je suis peut-être amenée à faire cette nuit. L'ascenseur reviendra et l'un des boutons sur lequel on a appuyé, auquel je n'ai pas prêté attention, oui, reviendra et sera, d'après Freud, ce qui déclenche la possibilité de réamorcer la pompe de la mémoire inconsciente.
C'est la Madeleine de Proust.
Oui, sauf que c'est un processus inconscient, oui. Au sens où le sujet est complètement dans la Madeleine de Proust, le sujet, il est tout de même conscient
oui,
de la remémoration, du geste. Dans le rêve, le sujet est complètement sans possibilité d'action ou de décision, précisément. C'est ça qui intéresse Freud aussi. Hein. En tant qu'on est rêveur, on est sans action possible, notre corps est inerte, et on est sans action, sans décision possible. C'est ça la dimension de l'inconscient. C'est ce qui arrive quand on décide de rien. Quand on n'oriente pas sa pensée, quand on ne se donne pas d'objet auquel réagir. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à partir de tout petit reste, de rien du tout, se réactive une mémoire très ancienne, immémoriale, à laquelle nous n'avons pas accès de manière directe, qui est retraitée dans le rêve. Voilà, c'est ça un peu l'idée.
Alors, jusqu'à quel point on peut comprendre l'élaboration qui se produit dans le rêve ? C'est un très vaste sujet pour la psychanalyse. Freud a développé... quelque chose dont je ne sais même pas si c'est un concept, c'est un mot en tout cas, c'est une notion, c'est la notion d'ombilique du rêve. Écoutez-le, c'est un extrait de l'interprétation des rêves de Freud.
Dans les rêves les mieux interprétés, on doit souvent laisser un point dans l'ombre, parce qu'on s'aperçoit dans le cours de l'interprétation qu'il y a là un nœud de pensée du rêve qui ne saurait se défaire et qui par ailleurs n'apporte aucune contribution supplémentaire au contenu du rêve. C'est l'ombilique du rêve, l'endroit où il plonge dans l'inconnu. Les pensées du rêve auxquelles on atteint par l'interprétation ne peuvent en effet, de manière très générale, que demeurer sans termes précis, et se répandre de tous côtés dans le réseau embrouillé du monde de nos pensées. C'est d'un point où cet enchevêtrement est particulièrement épais que surgit le désir du rêve, comme un champignon de son mycélium.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nous parlons de la complexité cette semaine et nous ne nous facilitons pas la tâche en abordant des œuvres véritablement complexes. Ce matin, nous sommes partis avec Alain Berthoz, de son œuvre autour de la notion de simplexité, qui est en quelque sorte un résultat d'un traitement complexe de l'information par le corps et le cerveau. Et nous essayons, c'est loin d'être simple, de faire des ponts avec la psychanalyse qui a quand même une autre histoire et d'autres points d'appui. Isabelle Alfandari, nous avons évoqué là le rêve et ce texte de Freud qui vient d'être lu parle de l'ombilique du rêve. Ombilique, ça vient d'un mot qui veut dire le centre, comme le nombril. Donc en plus, c'est quelque chose sans doute de central. Il parle du désir du rêve qui se joue à cet endroit-là. Qu'est-ce que tout cela veut dire ?
Alors, c'est un passage très célèbre de l'interprétation du rêve, où Freud a décrit les mécanismes de production, disons, du rêve, et vient d'une certaine manière apporter un contrepoint à l'intelligibilité du rêve selon ce mécanisme, ces différents mécanismes, en insistant sur le fait que, d'une certaine manière, un rêve peut être interprété et réinterprété de plusieurs manières, et que sans doute dans un rêve il y a un certain nombre, il y a un message que Freud appelle d'une certaine manière, qu'il appelle un souhait, un désir. Ce désir peut être interprété jusqu'à un certain point. Il y a dans le rêve des motifs, un motif qui souvent, clignote, mais sans donner lieu à la possibilité d'une intelligibilité au-delà. Donc cet ombilique, comme Jacques Derrida l'a appelé, il est comme un pas au-delà. Il est le lieu, disons, de la complication la plus grande des fils du rêve. Le rêve, c'est une série de fils, d'une certaine manière, embrouillés en un point, au-delà duquel on ne peut pas aller. Il y a donc, ce qui est posé là par Freud, c'est à la fois la possibilité d'une intelligibilité des productions oniriques, qui ne sont pas simplement contingentes. Pour Freud, il y a un déterminisme strict, il y a une logique du rêve, d'une certaine manière, et il y a pourtant dans le rêve un point au-delà duquel on ne peut pas aller, et qui est pour Freud le point d'origine du rêve.
Voilà, c'est ça qui est passionnant, parce que... La question qui en découle, c'est peut-être que c'est le point même de la créativité de l'inconscient. Le rêve est une création et il y a un mystère autour de la créativité de l'inconscient qui se concentrerait sur cette chose, cet élément qui clignote, disiez-vous, qui est le l'ombilic du rêve, sur des détails du rêve, où là, c'est mystérieux, c'est magnifique aussi. C'est magnifique.
Oui, c'est magnifique, c'est mystérieux, en tout cas c'est énigmatique, et c'est un point aussi au-delà duquel on ne peut pas aller. Donc il n'y a pas la possibilité de tout mettre à plat, d'une certaine manière. On peut rendre compte du désir du rêve, l'élaborer dans les associations avec le rêveur. Il faut bien dire que le rêve, en psychanalyse, ne s'interprète que par le rêveur. L'analyste, il est là, d'une certaine manière, pour rendre l'interprétation possible, et dans certains cas, en proposer une. Mais c'est le rêveur qui produit les associations. Le rêve, il est une série de phrases. Il revient au sujet sous la forme d'une série de phrases auxquelles l'analyste propose d'associer un certain nombre de contenus. C'est comme ça que s'interprète le rêve. Oui, mais il y a quelque chose de magnifique, comme vous dites, dans le fait qu'il y ait une énigme fondamentale qui est à la fois le point de la complexité ou de la complication la plus extrême, et aussi un point qui est, comment dire, d'une certaine manière rendu visible par une élucidation, une remontée oui. vers ce qu'il y a de simple. Il y a un point de complexité extrême qui, d'une certaine manière, concentre un certain nombre de fils ensemble.
Alors, si, là, je vous écoute tous les deux, et il me semble que un de vos points communs, Alain Berthaus et Isabelle Fandary, chacun parlant depuis une certaine science ou un certain nombre de techniques aussi, le point commun, c'est quand même de dire que les méthodes de simplification, il faut s'en méfier. Vous commencez votre livre, Alain Berthaus, La Simplexité, en produisant dès l'introduction un passage que vous intitulez « Merveilles et impostures de la simplicité ». Le fait que la thérapie psychanalytique se confronte à cet ombilic, par exemple, du rêve à des points non interprétables, c'est très important pour la psychanalyse. La notion de limite, par exemple, vous travaillez aussi Alain Berthaus, la notion d'interdisciplinarité dans un article paru dans Franchir les frontières pour décrypter le cerveau, qui est un collectif autour de vous, qui est apparu chez Odile Jacob. Et vous commencez à aborder cette question en disant qu'elle a tout de suite ses limites. Je trouve ça très intéressant. Il y a donc, la simplexité, c'est une modalité, si j'ai bien compris, de résolution peut-être de la complexité, mais attention, c'est beaucoup plus complexe que la simplicité qui est souvent mensongère.
Oui, oui, merci de résumer aussi clairement. La simplicité... Et souvent fait appel à des modes de réponse à une question qui sont trop limités, c'est-à-dire qui ne permettent pas justement de tenir compte de la complexité. Je voudrais revenir encore une fois, la puissance du cerveau humain, pas seulement humain, mais c'est au cours de l'évolution, la puissance des cerveaux qui peu à peu se sont constitués. Car aujourd'hui, on essaye de réfléchir toujours dans cette perspective de l'évolution. C'est-à-dire de ne pas faire de l'homme une créature tout d'un coup mystérieusement apparue, mais le résultat d'un processus progressif dans lequel les organismes ont dû résoudre ces problèmes de complexité. Les réponses simples ne sont pas adaptables, elles ne sont pas modifiables dans des environnements et en fonction de conditions qui sont en permanence improbables. L'indéterminisme et l'improbable est l'essentiel de nos relations avec le monde. Et c'est pour ça que moi, j'ai écrit effectivement dans ce bouquin, non pas au début mais à la fin, que le cerveau, et c'est le sous-titre du livre sur la vicariance, que le cerveau humain est un créateur de monde. C'est cette capacité en permanence de créer des mondes pour anticiper l'action en fonction du passé qui est notre capacité et qui fait que toute réponse simple est essentiellement souvent inadéquate. Alors j'en profite pour dire une autre découverte importante aujourd'hui, je crois, de nos amis des gens des neurosciences, ce n'est pas mon laboratoire, c'est la correspondance qu'il y a dans le cerveau entre les structures qui sont impliquées dans la préparation des scénarios du futur. Si je veux prédire ce que je vais faire en sortant de la maison de la radio, je vais mettre en œuvre un certain nombre de structures qui vont me dire qu'est-ce que je vais faire, où je vais aller, pourquoi je vais le faire et comment je vais y aller. Et vous savez que dans la mémoire, il y a aussi ces trois grands domaines. Il y a la mémoire épisodique, qu'est-ce qui s'est passé, la mémoire procédurale, comment j'ai fait, et puis la mémoire sémantique, pourquoi j'ai fait. Et il se trouve que les modules dans le cerveau qui correspondent à ces trois principales façons de traiter le passé et le futur sont en registre, c'est-à-dire discutent les unes avec les autres. C'est-à-dire en permanence, nous prédisons nos actions futures en fonction des mémoires du passé, en faisant appel à l'inconscient. Et pourquoi c'est important, cette similarité des structures du cerveau pour préparer l'avenir et aller chercher même dans l'inconscient, dans les structures inconscientes ou dans la mémoire du passé, les souvenirs, c'est parce que ça remet en cause complètement la notion d'identité. C'est-à-dire que l'identité, au lieu d'être simplement figée, d'être une chose simple, vous nous avez chacun présenté avec une identité. Mmh. Au fait, l'identité est en permanence le résultat de celui-là. Et comme nous sommes dans une émission de philosophie, je dois vous dire que j'ai fait un bouquin avec le philosophe Jean-Luc Petit, qui était un grand spécialiste de Husserl, il y a quelques années. Ce bouquin s'appelait « Phénoménologie et physiologie de l'action ». Et j'avais été passionné par la théorie de Husserl sur les relations protension-rétention. Husserl, dans son travail, décrit longuement cette relation permanente entre rétention, c'est-à-dire la mémoire, oui, et protension. Et les neurosciences modernes donnent des bases à tout ça. Et c'est aussi une occasion de dialogue avec des approches avec qui on peut être en désaccord, comme la psychanalyse.
Sur cette question, chez Edmund Husserl, nous avons fait une série il y a un peu plus d'un an sur consacré aux souvenirs, avec évidemment une analyse de la fonction de la mémoire au moment même de l'expérience du présent chez Husserl. Donc, merci beaucoup. L'identité, vous venez de le dire, est une construction souvent mensongère. Enfin, je résume peut-être un peu abruptement, mais je crois qu'on a compris...
Non, pas mensongère, c'est une dynamique.
Une dynamique.
Qui résulte en permanence des comparaisons entre mes buts, les oui. buts de
Donc elle bouge.
Et mon passé.
C'est sa permanence que vous critiquez.
Ça change en permanence.
Et finalement, ça, c'est peut-être aussi un des acquis de la psychanalyse. Je rappelle que nous sommes dans une période où la notion d'identité est saturée. C'est-à-dire on en parle tout le temps dans le débat public, que ce soit pour penser des identités de citoyens, de communautés, le mot d'identité est à la mode d'une manière stupéfiante. Et est-ce que vous pensez, Isabelle Alfandari, qu'à l'instar de ce que vient de dire Alain Berthoz, en psychanalyse aussi, on apprend à se méfier de cette chose-là ?
Ah oui, et on apprend à mettre en question et en cause la notion d'identité, en tout cas dans un sens, disons, ontologique, d'une espèce de donnée initiale, essentielle. Oui, parce qu'en psychanalyse, on juge que l'identité, elle est le fruit d'identification, d'abord, c'est-à-dire qu'elle n'est absolument pas un donné, elle est le fruit d'une construction, en partie inconsciente du sujet, et d'une série d'identifications à d'autres figures, et qui sont créatrice de liens et de la possibilité pour le sujet d'entrer en relation. Et donc, pour reprendre le titre d'un célèbre ouvrage de Jean-Luc Lancy, l'identité, elle est singulier pluriel pour la psychanalyse. Il n'y a absolument pas d'identité du sujet qui serait une espèce d'unité synthétique, donnée, ontologique, essentielle. Bon, ça, c'est un modèle qui est complètement défait par l'analyse analytique, oui.
Je signale qu'il y a eu, il y a déjà plusieurs années, mais pas tellement longtemps, un livre qui est une encyclopédie de l'identité qui a réuni près de 60 contributeurs pour discuter tous les aspects de cette question.
On arrive presque à la fin. Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce que c'est la neurophysiologie, Alain Berthoz ?
Il n'y a pas la neurophysiologie comme il n'y a pas l'identité, ou il n'y a pas le... Vous savez, je n'aime pas les... En France, on aime bien les concepts au singulier.
Au sens, vous dites que c'est un concept qui est anglo-saxon, qui n'est pas français.
Je suis un grand militant de la destruction des concepts au singulier. La mémoire, la décision, l'identité, l'attention, tous ces mots que nous aimons employer révèlent, recèlent des réalités complexes, et donc il faut faire attention. La neurophysiologie. Aujourd'hui, il y a une extraordinaire combinaison d'approches du vivant qui vont depuis la génétique, l'épigénétique, c'est-à-dire les mécanismes les plus moléculaires, jusqu'aux approches de neurosciences cognitives, avec des alliances qui ont été réalisées par... Pardonnez-moi, je ne suis pas arrogant, mais... par notre génération, par exemple, sur les sciences cognitives, où on a pu faire travailler ensemble des psychologues, des philosophes, etc. Donc, la neurophysiologie, c'est l'étude des mécanismes neuronaux du fonctionnement cérébral. Mais aujourd'hui, on ajoute à neurophysiologie les neurosciences cognitives en général, qui, justement, essayent de prendre en compte l'aspect global.
Voilà, et j'ai une dernière question aussi pour Isabelle Alfandari. Dans ce que vous venez de dire de la neuropsychologie, vous avez parlé d'études, il y a un enjeu de connaissance. Il y a aussi un enjeu d'épistémologie, de connaissance dans la psychanalyse, mais quand même, on ne peut peut-être pas conclure cette émission, Isabelle Alfandari, sans rappeler que la psychanalyse, c'est aussi l'idée, le désir de faire que quelqu'un puisse aller mieux. C'est comme un autre enjeu, ça aussi.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr que c'est, en tout cas, c'est l'idée freudienne que quelque chose est susceptible d'être dénoué par le travail de la parole et que, notamment, ce que vous avez rappelé au début de l'émission, à savoir la présence de symptômes relativement inhibiteurs, invalidants, et l'inhibition, elle n'est pas que bonne dans la vie psychique, elle est aussi ce qui peut nous empêcher. Le fait que la réalité psychique, elle est largement trop, elle occupe une place très encombrante et elle nous empêche d'être dans le lien avec les autres, ou même dans la reconnaissance de ce qui se passe autour de nous. Oui, la psychanalyse, elle vise aussi à dénouer la complexité du symptôme, de conflits internes, de manière à rendre le sujet à la possibilité de sa vie.
Et nous travaillons actuellement avec les pédopsychiatres à ces frontières.
Terminer une émission sur les neurosciences et la psychanalyse, j'ai choisi Tina Turner, la queen du rock and roll, c'est The Best, sa chanson de 1989, souvent appelée Simply the Best, qui est un pied de nez à tout le monde, puisqu'elle nous dit comment ça marche l'amour. You are simply the best, tu es juste le meilleur. Il y a un sourire final, plus une énergie qui m'apparaissait intéressante. Merci beaucoup Isabelle Alfandari, Alain Berthoz également. Les références de vos travaux sont sur notre site. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse à la généalogie dans nos vies. Voici le pourquoi du comment.
comment la généalogie ramène-t-elle à la vie ? Le désir de généalogie, le désir de rechercher ses origines, comporte chez les êtres humains qui s'y dévouent, qui s'y consacrent, une tension très profonde. D'un côté, bien entendu, il s'agit de comprendre son histoire singulière, de se replacer dans une différenciation historique et symbolique. Comment ai-je tel nom ? Comment s'est-il transmis, transféré dans une histoire complexe que certains voudraient essentialiser, alors qu'elle est importante à connaître d'abord, d'une manière historique. Mais d'un autre côté, la généalogie renvoie, qu'on le veuille ou non, en effet, à la vie. C'est aussi l'arbre avec son image végétale. Il y a quelque chose de génétique dans la généalogie, et la généalogie nous ramène aussi à la profondeur du vivant. On ne peut pas éviter non plus cette métaphore et cette réalité biologique du généalogique. Celui qui est allé le plus loin dans cette direction purement vitale de la généalogie, contre sa dimension historique et symbolique, c'est bien sûr Nietzsche dans sa généalogie de la morale. La généalogie de la morale est un livre extraordinaire dans la mesure où la morale, qui semble d'abord être une institution symbolique, fondée sur des principes éternels, le bien et le mal, apparaît à Nietzsche au contraire comme une réalité vitale parmi d'autres. Qu'est-ce qui, dans la vie, a engendré la morale ? Comment certains humains, pour des raisons vitales, pour des raisons de survie, au fond, ont-ils engendré les principes de la morale ? C'est une question profondément subversive. Nietzsche se situe donc d'un côté profondément vitaliste, pourrait-on dire, du versant vitaliste de la généalogie par opposition à son versant symbolique. La généalogie est d'abord un outil critique. Et Michel Foucault a repris aussi cette notion de généalogie avec celle d'archéologie en montrant que ce que nous prenons pour éternel est en fait l'objet d'une histoire et d'abord d'une histoire des forces du vivant qui s'accumulent en elle, et que le rôle du philosophe est de retracer cette histoire concrète et non pas de prétendre à un fondement absolu. Ce pouvoir critique de la généalogie vitale, il doit pourtant lui-même être critiqué. Ce n'est pas d'une seule manière que la généalogie renvoie au vivant. Pourquoi le vivant serait-il seulement la source d'un rapport de force absolument neutre ? Pourquoi le vivant ne serait-il pas aussi l'origine généalogique de principes fondateurs de la morale elle-même ? La vie est-elle indifférente à la morale ? Ou bien la morale ne surgit-elle pas de l'expérience dans la vie ? Peut-être pas du bien et du mal, qui en sont tirés abstraitement, mais du plaisir et de la souffrance, de la vie et de la mort, de la bienveillance et de la malveillance. Oui, une généalogie vitale de la morale n'est pas forcément la contestation de la distinction morale fondamentale du bien et du mal. Elle peut l'enraciner au contraire dans des expériences biologiques du malheur et du bonheur, de la joie et de la tristesse. Il y a donc une généalogie possible de la morale elle-même qui la ramène à la vie sans en sacrifier la polarité profonde. Pourquoi la vie, en effet, serait-elle indifférente à notre vie ? Pourquoi, au contraire, les principes moraux qui nous animent ne surgiraient-ils pas d'une polarité, d'une ambivalence de la vie elle-même dans sa lutte contre la mort ? Au fond, le refus de Nietzsche de fonder la vie sur un refus du négatif, le fait de fonder seulement comme un rapport de force toujours confus et mêlé, est un choix parmi d'autres. Il faut peut-être tenir compte de la réalité biologique et de la vie dans la généalogie de nos principes moraux et politique autant que de nos identités individuelles et biologiques, mais cette généalogie est peut-être plus complexe qu'on ne croit.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger, avec à la technique Éric Perruchot-Triboulet. Elle a été préparée en particulier par Victoire Mellet et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Carla Michel, Corinne Amar, Nassim Elkabli. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.